Vous êtes avec SBS French.
Tani Goma, vous êtes présentateur, animateur du programme Flight 1067 to Africa, le plus vieux programme de musique africaine à Melbourne. Bienvenue sur les antennes de la radio SBS, Tani.
Merci, merci à vous, merci beaucoup.
Presque 30 ans que ce programme existe. Quel parcours!
Tout à fait, tout à fait. C'est bizarre, hein, quand on dit 30, ça fait longtemps. Comme ça, avec le chiffre 30, mais oui, tout à fait, 30 ans de plaisir.
30 ans de plaisir, et c'était le tout premier programme, je suppose, africain, parce que à Sydney, où j'ai vécu pendant très longtemps, il y avait d'autres programmes africains, donc diffusés sur les antennes, même publiques, mais celui-ci, à ma connaissance, c'est le plus vieux de toute l'Australie.
Et oui, le programme qui a duré aussi longtemps, mais non, il y a eu un avant sur la même radio, hein, quand j'ai commencé, il y avait... Quand je suis arrivé, plus tôt, il y avait un Mozambicain qui faisait une émission à Melbourne. Et oui, tout de suite après mon arrivée, pour une raison ou une autre, il est parti. Je crois qu'il est reparti en Afrique.
Oui.
Et après, c'était la mienne, mon émission.
Oui.
Et resté la seule. Hein, et jusque-là, voilà, 30 ans au compteur.
On vient de faire un documentaire assez, je dirais en anglais, powerful sur le parcours de cette émission qui a marqué des générations d'Africains. Et ce n'est pas seulement de la musique, d'après ce qu'on voit dans ce documentaire, c'est aussi un ciment pour les communautés africaines qui viennent s'établir ici en Australie. Et bien, comme instrument d'établissement à Melbourne plus spécifiquement.
Quand je suis arrivé, en 1989, mmh, et quand je suis arrivé, je me suis dit, déjà j'ai regardé un peu partout, il n'y avait pas trop comme on dit tout à l'heure, il n'y avait pas trop de musique africaine, et je me suis dit, bon, il faut changer ça. Et donc j'ai commencé ça, et donc du coup, le but de l'émission, c'est vraiment donner la possibilité d'avoir accès à la musique africaine et la culture africaine en général. Et donc, au fil des années, on a eu des invités, des artistes en tournée, des artistes locaux. Et ça a toujours été comme ça, quoi. Et étant donné que l'Afrique, c'est un continent, l'objectif, c'est de promouvoir la musique de tout un continent, hein, 54, 55 pays, si on inclut le Sahara occidental. Et donc, ce qu'on fait... Et justement, en parlant de communauté, quand je suis arrivé, elle n'était pas très grande, la communauté africaine. C'était toute une petite communauté. Et avec le temps, elle a grandi avec beaucoup plus, en ce moment, avec le sud du Soudan, cette Soudanese community qui est venue après. Mais au départ, non, il y avait beaucoup plus des étudiants africains dans les universités. Et on connaissait presque tout le monde.
Oui.
Mais avec le temps, ce qui est arrivé justement, c'est quoi? Ça fait déjà ceux qui nous suivaient au début, eux aussi ont eu des enfants qui ont grandi,
oui,
en écoutant cette émission. Et maintenant, eux aussi, il y a certains qui sont maintenant les parents aussi.
Oui.
Et donc, du coup, on est là déjà. Ça fait déjà plusieurs générations comme ça, des gens qui écoutent l'émission, et voilà, ça, c'est un plaisir. C'est un plaisir d'être là à faciliter l'accès à la musique africaine à ceux qui sont intéressés, pas seulement les Africains, en fait. C'est aussi les Australiens, et puis qui ont connu l'Afrique parce qu'ils ont voyagé là-bas, ou ceux qui n'ont jamais eu la chance d'aller en Afrique, d'avoir la possibilité d'avoir cette fenêtre, si vous voulez, à travers la musique.
C'est pour les Africains, les amis de l'Afrique, je dirais. Et ce programme a une portée historique quand même, dans la manière de donner une empreinte africaine à Melbourne, à la communauté de Melbourne. Il n'y a pas que les Africains, vous avez dit, il y a aussi les amis de l'Afrique. Et j'ai vu dans le documentaire, vous avez dit qu'il y a un moment très, très, très fort, le moment des années de lutte contre l'apartheid. Quel a été le rôle de cette radio dans cette lutte?
Oui, oui, justement, c'est que moi, quand je suis arrivé en 89, j'étais très jeune, étudiant, et donc, du coup, le début des années 90, c'était vraiment la lutte anti-apartheid. Et donc, la plupart des informations même qu'on recevait ici de l'Afrique, c'était beaucoup plus centré sur l'Afrique du Sud, la lutte en Afrique du Sud. Et donc, nous, on a connu ça. On a connu les négociations et la libération de Mandela. Et donc, du coup, l'émission, c'était venu comme la bande-son de tout ça, de toute cette énergie qu'il y avait autour, cet espoir. Et ça m'a fait un peu penser, c'est vrai que je n'étais pas encore né, mais j'imagine que la même chose se serait passée si j'étais ici dans les années 57, à la fin des années 50, juste avant la venue des indépendances dans les années 60. Et donc c'est un peu pareil ici pour nous. Et en plus, à l'époque, il y a une grande communauté sud-africaine ici, plus ou moins, relativement parlant. Et donc, du coup, non, c'est l'émission a joué un rôle important en facilitant l'accès à des musiques qui pouvaient être, que les gens pouvaient associer avec la lutte qui se passait là-bas et la musique qui se jouait. C'était l'époque où la musique de groupes comme Lady Smith Black Mambazo était devenue très populaire à travers le disque de Paul Simon qui a fait Graceland. Et donc, du coup, c'était un moment vraiment très fort, très très fort de ce lien entre la culture, l'histoire et puis l'espoir pour un futur meilleur.
Et disons, parlant de l'histoire, vous avez vécu donc cette période historique où il y avait la lutte pour l'indépendance, donc la démocratie et l'ouverture de l'Afrique du Sud. Mais par après, on a eu une explosion, si je puis dire, de l'immigration africaine, afro-subsaharienne, parce que les Africains du Nord étaient déjà là depuis les années 50, les Sud-Africains, leur migration ont commencé avec la ruée vers l'or à Ballarat et tout ça. On a des traces des immigrés sud-africains qui étaient venus chercher de l'or, alors que l'Afrique subsaharienne, l'Afrique tropicale, donc ça n'a commencé que vraiment dans les années 90, et vous avez vu leur arrivée. Quel est votre... le portrait que vous brossez de cette communauté, de son histoire que vous avez vécue, dont vous avez été un grand témoin?
Oui, tout à fait. Ça a été un moment intéressant parce que, à un niveau personnel, ça a été. C'était intéressant de voir qu'on est parti d'un moment où plus ou moins on connaissait la plupart, la majorité des gens de notre communauté africaine, et à se rendre compte que. Plus ou moins soudainement, quand on allait en ville, au centre-ville, on voyait des faces, des nouvelles faces, des gens qu'on ne reconnaissait pas, qu'on n'avait pas connus. Et c'était vraiment, c'était un plaisir de voir que le nombre des Africains a augmenté et aussi le nombre de pays africains représentés. Donc ça a été un moment intéressant pour nous parce qu'on a vu ça, on a vu cette évolution. On a vu la communauté grandir, ou l'expansion de la communauté, mais on a vécu les difficultés que cela a engendré, dans le sens que la montée, si vous voulez, du racisme ou des difficultés, de la façon dont la communauté africaine était perçue il y a quelques années. Dieu merci, ça a commencé à s'améliorer, mais il y a eu aussi le sentiment anti-africain qui s'est développé. Et je crois qu'il y a eu un lien, bien évidemment, entre l'augmentation du nombre des Africains et le sentiment anti-africain. C'est ressenti beaucoup plus fort. Et au point où on commençait à parler de gangs africains et tout ça. Et donc, on a vécu ça aussi. Et au niveau de l'émission, nous, notre approche, c'est de rester positif, de garder le côté positif, parce que moi, j'ai toujours dit qu'il n'est pas crédible de penser qu'on va avoir une communauté d'où qu'ils viennent, quel que soit le nombre, et que dans cette communauté qu'il n'y a aucun criminel. C'est pas crédible de penser comme ça, qu'on va avoir une communauté qui est complètement sans histoire, sans problème. Et donc nous, on a été très conscients du fait que notre contribution à l'évolution ou à l'harmonisation de la société ou de la culture, c'est de montrer le côté positif, de montrer que nous devenons des pays d'un continent qui a beaucoup à offrir sur le plan de la culture, mais aussi sur le plan de l'histoire, et que dans tous les cas, la majorité des Africains, c'est des gens qui vivent une vie normale, paisible, ouais, tranquille, ouais, et qui ne sont pas là pour causer des difficultés à qui que ce soit.
Cette criminalité dont on parle, c'est un phénomène migratoire qui fait partie, ouais, de la migration, et ces jeunes Africains qui sont pris dans ce filet de violence, comment la musique peut-elle servir d'instrument de socialisation, d'instrument de construction d'une certaine cohésion de cette jeunesse qui, si elle est dans la criminalité, certains spécialistes disent que c'est parce qu'elle est déboussolée, elle n'a pas de repère. Comment est-ce que la musique peut servir de repère pour ces jeunes-là? Et comment est-ce que vous le faites? Parce que tout le monde parle de vous comme l'ambassadeur de la communauté africaine, et le lien, le ciment entre non seulement les différentes composantes, les différentes générations aussi.
Oui, la musique a toujours joué un rôle très important dans l'expression même de ce qu'on est, de ce qu'on a à dire. Et donc, c'est vrai qu'au niveau du programme, on est conscient du fait que la musique que j'écoute, la musique que moi j'ai écoutée par exemple quand j'ai quitté l'Afrique, et la musique qui se joue et qui se compose en Afrique aujourd'hui, la musique change, il y a une évolution au niveau de la musique. Et notre travail, c'est de faire tout pour que toutes les voix, toutes les tendances soient représentées au niveau de l'émission, pour que les jeunes Africains, surtout ceux qui sont nés ici, se reconnaissent dans ça. Il y a une musique qui leur parle. Mmh. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, ce qu'on essaie de faire tout le temps, c'est de se donner l'opportunité aux jeunes, aux plus jeunes, pour que leur musique soit écouté, soit entendu aussi, oui, mais aussi faciliter les liens, les collaborations, si vous voulez, entre les anciens et les plus jeunes. Oui. Je me suis essayé à ça en créant des collaborations. Donc pendant une durée, j'ai invité un musicien, oui, ou une musicienne de notre pays. Donc j'ai invité par exemple une musicienne, j'ai invité Jacques Kwe du Sud-Soudan, du sud du Soudan, ouais, avec un musicien kényan plus jeune qu'elle, ouais, pour collaborer sur une chanson et jouer sa live sur mon émission. Ouais. C'est une façon vraiment de faciliter cette conversation, ce dialogue, ouais, entre musiciens d'Afrique, de plusieurs pays, mais aussi de générations différentes, ouais, pour permettre aux plus jeunes de se sentir pas délaissés, se sentir qu'ils font partie d'une communauté. Ouais. Africaine, mais aussi de la communauté australienne plus généralement. Donc je crois que le travail, c'est au niveau de tout faire pour que les jeunes, nos jeunes gens dans la communauté ne se sentent pas délaissés ou abandonnés à eux-mêmes ou à elles-mêmes, oui, mais leur donner toutes les opportunités de s'exprimer, d'échanger, oui, et de collaborer avec des gens qui sont peut-être plus âgé qu'eux.
Vous jouez de la musique des quatre coins de l'Afrique. Moi, j'ai vu le programme, voilà, du dimanche dernier, des classiques des années, donc des classiques des Black Mambazo, Ladysmith Black, ouais, Mambazo. Vous passez du blues, vous passez tous les genres de musique africaine. Vous prenez de la musique qui vient du continent, mais avec la migration et les jeunes qui naissent ici en Australie, il y a une musique australo-africaine qui commence, ouais, à s'exprimer. Et ouais, comment voyez-vous cette musique australo-africaine?
Africaine. Ben, je crois que c'est une bonne chose. Hein. Comme toutes les musiques, c'est une tendance qui c'est un reflet de leur expérience, leur vie. Moi, je suis né à Brazzaville, j'ai grandi à Brazzaville. Je ne peux pas m'imaginer qu'un jeune, qu'il soit africain ou pas, né à Melbourne, puisse se comporter ou voir le monde comme une personne qui est née et a grandi à Brazzaville, par exemple. Et donc, du coup, même s'il y a il y a cette connexion très forte avec l'Afrique, nos jeunes gens d'ici, non, ils ont une façon différente de voir les choses. Et moi, j'apprécie, je vois une jeune comme Sampa the Great, qui est en train de
la Zambienne, oui,
de faire des choses extraordinaires et qui a été d'ailleurs bien reconnue. Et ce qui est curieux, ce qui est intéressant, c'est qu'elle, après avoir fait ses débuts ici, après avoir vraiment atteint un niveau assez élevé ici. Elle est repartie en Afrique. Et ce voyage, ce retour en Afrique, lui a beaucoup apporté, dans le sens qu'elle voit qu'elle a quelque chose à offrir aussi au continent africain. Et donc, d'un point de vue, l'essentiel pour nos jeunes gens ici, c'est de trouver une musique qui leur parle eux-mêmes d'abord,
oui.
Mais aussi à un moment donné, si les possibilités se présentent à eux, de trouver moyen de connecter avec le continent, parce que ça va leur apporter beaucoup.
Oui.
De savoir qu'il y a quelque part au monde un endroit où leur façon d'être, leur façon de parler et leur façon de voir les choses, il y a des auditeurs, des gens qui vraiment sont prêts pour ça, qui sont prêts à les écouter et sont intéressés à ce qu'ils sont et ce qu'ils ont à offrir. Et donc moi c'est comme ça que je vois, j'essaie de les supporter aussi. En même temps, je suis conscient du fait que l'émission doit aussi pouvoir, comme ça s'appelle Flight 1067 to Africa, donc c'est un vol,
oui,
vers l'Afrique. Donc c'est trouver cette balance entre faire découvrir aux gens qui sont ici les musiques d'Afrique, y compris nos jeunes gens qui sont ici, qui n'ont pas grandi là-bas et donc n'ont pas connu cette musique. L'émission doit pouvoir être un moyen pour eux de découvrir les musiques qui viennent d'Afrique. Mais en même temps, c'est aussi la possibilité de les écouter, de jouer leur musique à eux qu'ils ont conçue ici. Mais quelque part aussi, comme je suis conscient du fait que de plus en plus avec les moyens, avec la technologie et tout ça, nous sommes écoutés un peu partout à travers le monde. Donc il y a des gens qui, en Afrique aussi, qui nous écoutent. Et donc c'est une bonne chose que l'émission puisse donner la possibilité à quelqu'un qui est en Afrique, par exemple, ou ailleurs, d'écouter la musique d'une personne d'origine africaine, mais basée en Australie.
Ouais. Non, parce que là, vous dites quelque chose de fondamental. Là, je me souviens, moi-même, quand j'ai commencé la radio, il y a des dizaines d'années, on recevait de la musique, mais sous forme de cassettes. Et les cassettes nous arrivaient, nous parvenaient via la poste et tout ça. Maintenant, c'est instantané, on pousse un bouton et c'est sur YouTube dans les minutes qui suivent, où on envoie ça par courriel. Donc, il y a ces changements technologiques qui permettent quand même un échange beaucoup plus... je dirais qu'il nous rapproche davantage.
Absolument, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus instantané. Et ce qui est curieux, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de radio, hein. Ils n'ont pas de radio, mais ils écoutent la radio. Voilà, il y a des gens qui n'ont pas un poste de radio, si vous voulez, hein. Mais ils écoutent à travers leur téléphone portable ou les applications et tout ça. Et donc, on est dans un monde beaucoup plus fluide, beaucoup plus... éparpillés, si vous voulez, dans le sens que nos auditeurs, ils sont un peu partout, hein. Ils sont pas seulement à Melbourne d'ailleurs, ils sont un peu partout en Australie et de plus en plus à travers le monde.
Oui.
Et donc, on est conscient du fait que le travail que nous faisons, même si la majorité de nos auditeurs sont toujours les gens de Melbourne, mais de plus en plus, c'est un peu partout.
Oui.
Et si quelque part, on peut donner la possibilité aux gens qui sont ailleurs, mais qui sont intéressés à ce qui se passe dans la diaspora africaine, ça permet aussi de faire évoluer les choses, que leur musique soit entendue plus loin, au-delà de l'Australie, si vous voulez.
Quel est le moment de ces presque 30 ans de radio, de musique africaine à Melbourne, quel est le moment le plus marquant de cette période?
Bon, il y en a plusieurs, toujours, évidemment. Oui. Le plus fort, c'est la chance qu'on a de rencontrer, de faire des rencontres avec surtout avec les grandes figures, grandes pointures de la musique africaine. J'ai eu la chance, Père son âme, Mireille Makeba, qui a joué à Melbourne. C'est la seule fois, je pense, qu'elle a joué. Non, pas la seule fois. Mais la dernière fois qu'elle a joué à Melbourne, c'est en 2006. J'étais le master de cérémonie, donc c'est un grand plaisir, une grande dame comme ça, comme Mireille Makeba, qui a commencé la musique bien avant que je sois né. Elle est Mama Africa après tout, et avoir la possibilité d'être là et de dire voilà, Mireille Makeba, applaudissez pour Mireille Makeba, c'est un plaisir incroyable. Et il y a eu d'autres rencontres avec les gens comme le défunt Yuma Sekela et les gens comme Youssou N'Dour et d'autres. Et Papa Wemba, le père à son âme aussi. Et donc ces rencontres, ça reste avec vous. Il n'y a pas de... On peut pas oublier ça. Ouais. Et en plus, avec le temps, on a aussi commencé des petits projets comme organiser des voyages en Afrique avec les auditeurs. Ouais. Et donc, s'il n'y avait pas Covid-19, on serait peut-être quelque part cette année. On est parti à Zanzibar au mois de février, ouais, avec une dizaine d'auditeurs qui sont, ouais, venus pour aller découvrir l'Afrique, aller voir un festival qui s'appelle Sauti za Busara. Donc c'est des moments très forts comme ça. L'année dernière, en septembre, on a fait organiser un grand concert en mémoire de Fela Kuti ici. C'était énorme. C'était, ouais, jusqu'à présent, tout le monde, les gens en parlent. Ceux qui étaient là, ils en parlent comme un moment très fort. Donc il y a des choses comme ça. Si je dois citer un, je dois dire que être là sur le podium avec Myriam Makeba, c'était très fort.
Mother Africa, j'ai grandi sur sa musique avec Malaika qui se traduit dans toutes les langues sur le continent africain, que ce soit en Swahili ou dans d'autres langues, c'est un grand classique. Mama Africa, en tout cas, l'avoir rencontré, c'est un grand, grand, grand privilège. Et un dernier mot pour conclure, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'aurais pas abordé dont il faut absolument parler?
C'est le futur, c'est toujours le futur. On espère que avec cette pandémie qui vraiment frappe tout le monde à travers le monde, que les choses vont s'améliorer et que très bientôt on aura l'occasion de se retrouver, parce que la musique elle a besoin de des concerts,
des rencontres humaines.
Voilà, elle a besoin des échanges, que les gens puissent être en mesure de voyager. Donc j'espère. Surtout pour nous autres à Melbourne, on espère que l'année 2021 sera telle que on va retourner à cette possibilité de voir des musiques africaines dans des concerts. Donc c'est vraiment ça, c'est juste un souhait,
une prière, un souhait
que les choses s'améliorent et que voilà, tout le monde est en train de faire de leur mieux dans leur comportement, le gouvernement fait de son mieux dans sa façon de faire, mais on espère.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.